Suivre Jésus, c'est une expression qui revient souvent dans l'Évangile et du moins à quelques reprises, et nous avons lu tout de suite, il y a quelques instants, deux textes qui nous disent de quoi il retourne. Ce qui surprend tout d'abord quand nous voyons Jésus appeler ses disciples et leur dire « Suis-moi », en tout cas il l'a dit à quelques-uns d'entre eux, et il l'a dit aussi à un autre, Lévi ou Matthieu, qui travaillait au bureau des péages, au bureau de la douane, et il lui a dit aussi « Suis-moi ». Ce qui surprend d'abord, c'est que suivre Jésus, et c'est le premier point, c'est un événement qui a un côté radical. Nous verrons tout à l'heure que suivre Jésus, c'est aussi un acte personnel. Et en dernier point, nous verrons que suivre Jésus, c'est un acte qui est porteur de changement. C'est tout d'abord, suivre Jésus, un événement de nature radicale. Suivre Jésus, d'après l'Évangile, toujours, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à l'adhésion à une religion, par exemple. Quand on adhère à une religion, en général, ça se fait doucement, ça se fait progressivement, pas à pas. On entend parler de cette religion, on commence à s'y intéresser, on lit des textes, on va à l'église ou au temple ou dans un autre lieu de réunion, et petit à petit, on découvre les choses. Alors qu'avec Jésus, quand nous voyons l'Évangile, par exemple, tout à l'heure, nous avons lu l'appel de Pierre, d'André, de Jean, de son frère Jacques, qui avait une profession, qui avait une occupation, qui avait un mode de vie, qui était celui qu'ils avaient depuis leur âge adulte, et qui, donc depuis quelques années seulement, car on pense généralement qu'ils étaient encore assez jeunes, ils avaient peut-être une trentaine d'années, comme Jésus, quand Jésus les a appelés, ils avaient une vie bien cadré, comme nous dirions aujourd'hui. Mais, à un certain moment, Jésus est passé par là et Jésus a appelé à un événement radical. Il leur a dit « Suis-moi ». Quand nous lisons l'Évangile, nous avons l'impression que tout s'est passé en quelques minutes. Il était peut-être 15 heures, je ne sais pas, l'heure a peu d'importance, mais mettons qu'il était 15 heures, ils étaient là en train de réparer leur filet. Jésus leur a dit « Venez, suivez-moi » et à 15h05, ils étaient partis. On a vraiment cette impression de soudaineté. C'est ce qui montre que, et c'est un peu la même chose quand j'évoquais le fait que Matthieu, qu'on appelle aussi Lévi, qui était un fonctionnaire qui travaillait pour les impôts, pour le recueillement des taxes, eh bien Matthieu est à son poste de travail, Jésus passe, il le voit, il lui dit « Suis-moi ». Et tout de suite, Matthieu se lève et suit Jésus. Tout cela nous montre que lorsque Jésus parle, il se passe quelque chose. Suivre Jésus, c'est un événement radical. Pourquoi ? Parce que Jésus demande qu'on le suive lui seul. Je me souviens d'un brave homme qui me disait un jour qu'il voulait se faire baptiser chez nous et dans notre église à Paris. Et il me disait, j'aime bien venir ici chez vous comme j'aime aller aussi dans d'autres endroits. Alors je lui disais, mais où vas-tu ? Il dit, bien le dimanche je viens chez vous, dans la semaine je vais voir les témoins de Jéhovah, je vais à leur temple, je suis leur réunion, et puis le vendredi je vais à la mosquée. Je lui dis, mais pourquoi tu vas partout ? Il dit, je ne sais pas, comme ça je me sens mieux. Il voulait en quelque sorte se rassurer pleinement. Alors il se disait peut-être qu'il avait oublié quelques religions quand même, remarquez au passage. Mais il aurait pu aller tous les jours dans un temple ou un bâtiment différent. Il voulait essayer de se rassurer en mettant, excusez-moi l'expression, tout le monde de son côté. Mais j'ai dû lui expliquer que si nous ne prenons que Jésus, parce que je ne suis pas spécialiste de la mosquée ni des témoins de Jéhovah, mais si nous prenons simplement Jésus, Jésus demande l'exclusivité. On ne peut pas suivre Jésus et suivre un autre en même temps. Parce que Jésus demande que l'on quitte tout. Alors, cela ne veut pas dire que nous devons tous quitter notre travail, notre métier, mais Jésus demande une adhésion totale à son projet. à son plan, à la vie nouvelle qu'il va nous donner. Cet aspect radical ressort bien du deuxième texte qui a été lu tout à l'heure dans Marc au chapitre 8 et au verset 34, et où Jésus dit ceci, Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, si donc quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, ou d'après d'autres traductions, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il se renie lui-même est une phrase très radicale. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous l'histoire du reniement de Pierre. Pierre, au moment où Jésus a été arrêté, a renié Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre était là en train de se chauffer devant un petit feu de bois dans la cour du souverain sacrificateur, du grand prêtre donc. Et puis quelqu'un l'a vu et lui a dit « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus, il me semble te reconnaître. » Alors Pierre a dit « Moi non, je n'étais pas là, moi je ne le connais pas. » Et le récit de l'Évangile nous dit qu'à trois reprises, donc cette fois-là, puis deux autres fois ensuite, devant la même jeune femme, même jeune servante, et puis devant un autre homme, un peu plus tard dans la soirée, il a prétendu qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a dit « Moi je ne connais pas cet homme, je ne l'ai jamais connu. » Eh bien, l'Évangile dit que Pierre a renié Jésus. Renier, ça veut dire donc prétendre ne pas connaître quelqu'un que l'on a quand même connu, parce qu'on le renie. C'est quelqu'un qu'on a connu, mais qu'on prétend ne jamais avoir connu. Eh bien, se renier soi-même, c'est la même chose. Se renier soi-même, c'est lorsqu'on rencontre Jésus, commencer à affirmer que dorénavant, on ne se connaît plus. On ne connaît que Jésus. C'est un peu ce qui ressort d'une phrase de l'apôtre Paul qui a dit un jour « J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour moi. » À partir du moment où je décide d'accepter l'invitation de Jésus et de le suivre sur le chemin, je change complètement de vie. Cela va ressortir de certaines choses que je vais faire. Cela va ressortir du mode de vie que je vais adopter. Jésus, par exemple, va dire « Si quelqu'un veut me suivre, c'est dans Luc chapitre 14, verset 26. C'est encore une phrase qui peut étonner par son caractère radical. Jésus dit ici « Si quelqu'un vient à moi, donc si quelqu'un me suit, et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » En quelque sorte, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, alors non seulement il doit se renier lui-même, mais maintenant Jésus dit, il doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, enfin tous les gens qu'il connaît. Alors bien évidemment, comme vous le savez, Jésus n'a jamais enseigné la haine. Jésus est plutôt venu pour enseigner l'amour. Ce que Jésus veut dire, bien sûr, c'est que à partir du moment où nous le suivons, nous n'allons pas commencer à détester tous les gens qui nous entourent. Car cela créerait beaucoup de problèmes, bien sûr. Non, ce que Jésus veut dire, c'est que si quelqu'un veut venir après lui, si quelqu'un veut le suivre, il doit faire passer Jésus en premier. Il doit continuer à aimer ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses parents, et tous ceux qui l'entourent. Mais il doit faire passer ce que Jésus enseigne en tout premier. On peut très bien d'ailleurs aimer tous ceux qui nous entourent, tous ces gens que Jésus mentionne, ses proches en quelque sorte. On peut très bien les aimer tout en aimant Jésus. Mais il faudra suivre l'enseignement de Jésus afin de pouvoir le suivre parfaitement. Le deuxième point, c'est que suivre Jésus, c'est un acte qui est fondamentalement personnel. C'est moi qui dois décider de suivre Jésus. Personne ne peut décider de suivre Jésus à ma place. Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, vous voyez que ça fait longtemps, quand j'étais jeune, j'entendais souvent dire « Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. » Dieu n'a pas de petits-enfants. Ce n'est pas parce que je suis né, et c'est mon cas, ce n'est pas parce que je suis né dans une famille qui connaissait Dieu, avec des parents qui connaissait Dieu, qui avait rencontré Jésus, que je suis devenu chrétien. Il a fallu qu'un jour, d'ailleurs mes parents me l'ont bien fait savoir, il a fallu qu'un jour je fasse une démarche personnelle. Avant, j'étais simplement au bénéfice d'un certain nombre de choses. Dieu bénissait le foyer dans lequel j'habitais parce que mes parents avaient donné leur vie à Jésus. Avec le temps, mes frères aînés ont donné leur vie à Jésus. Puis un jour, j'ai décidé moi aussi de m'engager. Jusque-là, j'étais au bénéfice de la présence de Jésus dans notre foyer, mais je n'étais pas un enfant de Dieu au sens profond et biblique du terme. Il a fallu que je prenne une décision personnelle de m'engager moi-même, comme si on me disait, écoute, tes parents ont signé sur ce contrat, tes frères aînés ont signé le contrat, c'est à toi de décider si tu veux signer le contrat. Tu n'es pas obligé. Et il en est de même avec Jésus. Nous voyons que dans la vie, d'ailleurs, il y a beaucoup de décisions que nous devons prendre nous-mêmes. Très peu de décisions sont collectives, en fait. Si, dès l'instant, par exemple, où on se marie et qu'on décide avec sa femme d'avoir, ou son mari d'avoir un compte joint, il va y avoir des décisions collectives à prendre. Il y aura un certain nombre de décisions collectives à prendre. Si on rentre à faire partie d'un club, d'une association, et si l'on entre dans le comité qui va diriger cette association, ce club, cette organisation, on va avoir des décisions collectives à prendre. Mais dans la vie, beaucoup de décisions sont des décisions personnelles. La décision, par exemple, de se marier. C'est une décision facile à comprendre, oui. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Même si les deux vont se marier, s'ils décident de le faire, chacun prend une décision personnelle. Normalement, personne n'est obligé de se marier. Et l'homme et la femme ont pris tous les deux l'engagement de se marier. Dans de bien des domaines. Par exemple, si on nous propose plusieurs emplois, bon, c'est peut-être pas le moment en ce moment, parce qu'on est déjà content quand on en trouve un, mais il peut arriver parfois dans la vie que certains ont l'occasion de choisir entre deux postes, voire même trois. C'est leur décision. Et parfois, il arrive qu'on prenne une décision et qu'on la regrette après, peut-être parce qu'on s'est précipité, peut-être parce qu'on n'a pas pris tout en considération. La conversion aussi est une décision personnelle. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, Ézéchiel dit ceci. Parce qu'à l'époque, on disait souvent, si les parents ont commis des fautes, ce n'est pas la Bible qui a enseigné ça. La Bible n'a jamais enseigné vraiment cela. Mais vous savez que dans tous les temps, il y a toujours eu des préjugés, des idées reçues, des façons de raisonner qui n'avaient pas de base solide. Eh bien, à l'époque d'Ézéchiel, on disait toujours, si les parents ont fait des choses qu'il ne fallait pas, les enfants en subiront les conséquences. Alors, c'est vrai dans un certain nombre de domaines, bien sûr, mais ce n'est pas une vérité fondamentale. Alors, Ézéchiel a répondu en disant, Dieu dit, je suis vivant, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pèche, l'être humain qui pèche, c'est lui qui mourra, pas un autre. L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, cet homme-là vivra. Et un peu plus loin, Ézéchiel dit, de la part de Dieu, au verset 23, je crois, Ézéchiel va jusqu'à dire, est-ce que Dieu parle et dit, est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Non, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. La décision est entre les mains de chacun. C'est ce que Jésus va dire plus tard à Nicodème. À Nicodème, vous savez, lors de cette fameuse rencontre entre les deux, Nicodème est venu, qui était un chef religieux de l'époque, un des plus grands chefs religieux de son pays. Nicodème est venu voir Jésus et Jésus lui a dit, si un homme, et là nous voyons encore que ce n'est pas une décision collective, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est une décision personnelle. Jésus voulait dire à Nicodème, si tu ne décides pas de naître de nouveau, si tu ne décides pas de t'approcher de Dieu, de demander le pardon de tes péchés, eh bien, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si Nicodème était marié, sa femme pouvait très bien décider de naître de nouveau, de donner sa vie à Jésus, et pas Nicodème. Et vice-versa, si Nicodème le décidait, ça n'engageait pas sa femme, ses enfants, ses voisins, ses parents. Chacun est libre de décider. C'est pourquoi Jésus dit, avant de quitter ses disciples, il dit « Celui qui croira, il dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui, ou celle bien sûr, qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. » C'est une décision personnelle. Alors, le troisième point, c'est que suivre Jésus, c'est une décision radicale, c'est une décision personnelle, mais c'est aussi une décision qui est porteuse de changement. Il y a des gens qui aiment le changement. Pareil qu'en France, aujourd'hui, tout le monde voudrait le changement. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le genre de changement. Vous savez qu'on aime bien de temps en temps changer, et puis on se rend compte que lorsqu'on veut pousser les gens à changer, ils ne sont pas toujours prêts à changer. On n'aime pas, par exemple, changer ses habitudes. Chacun se lève à l'heure qu'il a décidé. Si on nous disait, il faudrait que tous les matins, maintenant, pour telle raison, tu te lèves une heure ou deux heures plus tôt. Tout de suite, on va se dire, oh, pourquoi ? Il faut vraiment me donner une raison valable. Pourquoi ? Déjà, on commencera à négocier peut-être en disant, alors je me coucherai deux heures plus tôt. On va commencer à négocier, mais on va surtout se dire, pourquoi changer ? Je me souviens, un jour, je participais à une réunion où l'on devait prendre une décision sur un certain sujet, et puis quelqu'un s'est levé, quelqu'un qui était pourtant d'habitude inspiré, quelqu'un s'est levé et a dit, mais nous avons toujours fait comme cela. Pourquoi changer ? Donc là, on était bien parti pour la révolution. Pourquoi changer, puisque ça a été notre tradition, puisque ça a été notre façon de faire, pourquoi changer ? Quand Jésus est venu sur terre, que ses disciples ont commencé à le suivre, ses disciples ont vite compris que les choses allaient changer avec Jésus. Non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils allaient passer par une expérience de conversion qui allait changer leur vie, mais la façon dont Jésus prêchait, le contenu de sa prédication et de son enseignement, sa façon de se comporter dans la société, tout indiquait que suivre Jésus allait les obliger à changer. Je prends un petit exemple, quelques petits exemples. Par exemple, un jour, Jésus se promène avec ses disciples, il traverse un village qui se trouvait en Samarie, et puis il cherche à dormir pour la nuit dans ce village. C'était un village, donc, qui n'était pas en Judée ni en Galilée, d'où venaient la plupart des disciples de Jésus, mais en Samarie, qui était un pays un petit peu différent, une région un peu différente, puisque dans le passé, par le passé, les habitants de Samarie, qui étaient des Juifs au départ, avaient, lors de l'invasion de leur pays, avaient contracté mariage avec des gens qui n'étaient pas Juifs. Et donc, pour cette raison, les Juifs qui habitaient au sud et ceux qui habitaient au nord de la Samarie ne voulaient plus trop avoir de contact avec eux, en tout cas pas grand-chose à faire avec eux. Alors, ce village de Samaritains, lorsqu'il a su que Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem, qu'ils étaient juifs, n'a pas voulu les recevoir. Alors, vous vous souvenez peut-être de la réaction des disciples de Jésus, en tout cas deux d'entre eux, Jean et Jacques, les deux frères, ont dit, « Seigneur, ils ne veulent pas nous recevoir. Est-ce que tu veux que nous commandions au feu du ciel de descendre et de les brûler tous ?» Pour des disciples de Jésus, bon, bien sûr, ils étaient en formation. Et bien sûr, la formation n'était pas terminée. Sinon, si lors de l'examen final, ils avaient répondu cela, certainement qu'ils seraient repartis pour quelques années de formation supplémentaire. Jésus ne voulait pas tenir compte de tous ces préjugés de son époque. Jésus a montré qu'il aimait autant les Samaritains que les Juifs. Pourquoi ? Les Samaritains qui étaient des demi-Juifs, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'ils avaient des origines juives et aussi d'autres origines. La preuve, c'est que Jésus, un jour qu'il passait à nouveau par la Samarie, s'est arrêté, vous savez, qu'il a discuté, conversé avec une femme samaritaine pendant un certain temps, peut-être une heure, deux heures, et que cette conversation a amené à la conversion de cette femme, et par voie de conséquence ensuite, quand cette femme a témoigné dans son village, à la conversion d'un grand nombre d'habitants de ce village. Jésus n'avait pas de préjugés. Des gens qui n'étaient pas juifs sont venus vers lui pendant qu'il était sur terre et ont demandé à être bénis par lui, et ils l'ont été. Jésus a d'abord travaillé à changer la mentalité de ses disciples. Vous vous souvenez qu'un autre jour, Jésus, par exemple, sortait du temple de Jérusalem, et en sortant du temple, il a vu un homme qui était là, qui était de la connaissance de tous, aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus lui ont dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que cet homme est aveugle ? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même a péché ?» Alors évidemment, on pourrait se dire, mais comment un homme qui est né aveugle a pu devenir aveugle à sa naissance parce qu'il avait péché ? Il fallait qu'il pêche avant sa naissance. Comment peut-on pécher avant sa naissance ? Il paraît qu'à l'époque, selon certains, c'était possible. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est déjà bien compliqué. Mais Jésus a fait remarquer à ses disciples que ce n'était pas question de savoir si quelqu'un avait péché ou quelqu'un d'autre. La question, c'était que cet homme était malade et que Dieu voulait manifester sa gloire en le guérissant. Jésus a ainsi lutté contre les préjugés de ses disciples quand il était sur terre, parce qu'il voulait leur montrer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de préjugés. Et toute la Bible est là pour nous montrer que Dieu n'a pas de préjugés. Il aime aussi bien les blancs que les noirs. Il aime aussi bien les gens riches que les gens qui ne sont pas riches. Il aime les Africains, les Américains, les Asiatiques, les Européens, et j'en oublie peut-être. Il les aime tous de la même manière. Il aime ses enfants, mais il aime aussi ceux qui ne sont pas encore ses enfants. Il aime toutes ses créatures. Et les disciples ont dû comprendre cela à force de vivre avec Jésus. Il aura fallu parfois du temps pour comprendre. La Bible dit que quand Jésus est mort et puis il est ressuscité, ils ont commencé à comprendre certaines choses qu'ils n'avaient pas comprises avant. Une autre chose qu'ils ont vue, qu'ils ont découvert, c'est que quand Jésus enseignait, il appelait toujours Dieu son Père. Et non seulement il appelait Dieu son Père, mais il disait en parlant de Dieu, « Votre Père ». Il a apporté à ses disciples et à tous ceux qui le suivaient la connaissance d'une relation nouvelle avec Dieu, une relation personnelle. En appelant Dieu son Père et en disant que Dieu était le Père de tous ses enfants, Jésus a voulu montrer que Dieu n'était pas un être lointain, sévère, éloigné, qu'il fallait d'abord craindre et trembler devant lui. Il a dit d'abord que Dieu était notre Père, qui nous connaissait, qui nous aimait, et parce qu'il nous aimait, qu'il voulait que nous le connaissions et que nous puissions avoir avec lui une relation particulière. Il y a dans tout l'Évangile de nombreux textes que nous n'avons pas le temps de lire cet après-midi, mais qui nous montrent que suivre Jésus, c'est d'abord un événement radical. Suivre Jésus, c'est un acte personnel. Suivre Jésus, c'est un acte qui est porteur de grands changements dans notre vie. Tout l'enseignement de l'Écriture, l'enseignement de la prière, par exemple, l'enseignement de Jésus sur la prière nous montre que prier, ce n'est pas un acte rituel. Jésus a donné une dimension simple et naturelle, et même surnaturelle, bien sûr, à tout ce que nous devons faire dans la vie. Jésus a montré que prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Une fois que Dieu est devenu notre Père, une fois que nous savons que nous pouvons avoir une relation personnelle avec lui, Jésus a voulu montrer à ses disciples qu'il pouvait prier simplement, comme un enfant parle à son Père. Vous savez que parler à son Père, c'est une des choses les plus naturelles et les plus simples qui soient. Les enfants le découvrent souvent, très vite, pas souvent, mais très vite, si, c'est très souvent aussi après, Mais de parler à son père, c'est la chose la plus simple au monde. Papa, est-ce que tu veux bien que... Papa, est-ce que je peux te demander ça? Papa, est-ce que tu peux me donner ça? Les enfants ne font pas n'ont pas de formule particulière, bien élaborée, bien sophistiquée, pour essayer de parler à leur père. Ils disent les choses très simplement. Il n'y a rien de plus simple. Et Dieu veut, et c'est ce que Jésus a montré, changeant en cela l'esprit de ses disciples, il leur a montré que parler à Dieu, c'était une chose simple, qui devait être naturelle. À ce point que même ses disciples lui ont demandé un jour, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Montre-nous comment nous devons prier. » Et Jésus leur a enseigné, d'une manière très simple, à prier. Et il leur a dit, « Pour prier, il faut simplement s'adresser à Dieu en le respectant tel qu'il est, en sanctifiant son nom, en marchant dans ses voies. » Et aussi, il a dit, « En comptant sur son esprit pour nous conduire dans la prière. » Toutes ces choses ont fait que suivre Jésus, c'est un acte important, c'est un acte qui change une vie complètement, mais c'est un acte qui est simple à faire, puisque Jésus dit que le suivre, c'est d'abord l'écouter et lui obéir. Écouter son enseignement, c'est lire l'Évangile, c'est se laisser transformer. Vous savez, quelquefois on lit la Bible et on ne se rend pas compte que la Bible nous transforme si nous la lisons de manière simple et sincère. En demandant à Dieu de nous parler, en demandant à Dieu de nous écouter, de nous parler et de nous faire comprendre sa parole. C'est une chose, une démarche qui est personnelle, mais que Dieu nous aide et veut que nous apprenions à faire, parce que nous verrons à ce moment-là que, comme dit Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, mais maintenant, tout est devenu nouveau. Jésus nous appelle, en le suivant, à découvrir une autre vie, une vie nouvelle, une vie dans laquelle il marchera devant nous, c'est pour cela que nous disons que nous le suivrons. Il marchera devant nous, il nous conduira dans ses voies, il nous parlera et nous pourrons lui parler en le priant, que le Seigneur nous aide à le suivre, parce qu'il a de très bonnes choses en réserve pour chacun de nous. Amen.